Mesdames, Messieurs, j'ai le grand privilège d'être, je dirais, presque couronné par les collègues qui vont parler dans ce séminaire les semaines prochaines. Et ils ont eu en plus la gentillesse de m'accorder d'une manière très bienveillante, et je vous remercie, la possibilité de continuer ce séminaire dans le sens même qu'un séminaire devrait avoir, c'est-à-dire enrichir les hypothèses de travail à partir non seulement de ce qu'ils vont nous proposer dans leur séminaire spécifique, mais aussi de ce que j'ai proposé ce matin. Donc, Corinne Herskovitch, qui nous parlera de l'œuvre d'art au point de vue de la définition juridique de son identification et perfection. Valeria Giannetti, qui nous parlera de infinito interminato, donc d'inachevement chez Leopardi, et Francisco Arauta, qui nous parlera de Babel, mythe moderne. Donc, vous voyez, il y a là des possibilités multiples d'enrichir le discours que nous venons d'entamer. Et je me permets, alors, tout d'abord, dans ce bref moment de préparation, tout à fait inachevé, de donner tout d'abord la parole à Corinne Herskovitch.
Merci beaucoup, Carlo Sola. Donc, on vient ici un petit peu au pied levé. On était venu écouter Carlo pour préparer nos interventions dans les semaines prochaines. Et on va essayer de rebondir un petit peu sur toutes les ouvertures, tous les sujets que vous avez posés, tous les dossiers que vous avez ouverts. Et moi, je commencerai simplement par rebondir sur cette phrase défigurée pour sortir de la représentation. Donc, c'est vrai qu'à partir du 19e siècle surtout, on s'aperçoit que les artistes luttent contre une représentation et cherchent ce qu'il y a sous la représentation. Et donc on voit à partir des romantiques une recherche de profondeur, enfin de ce qu'il y a derrière la représentation, cette espèce de contact et rupture. On va un peu casser l'académisme, on va casser les codes pour voir ce qu'il y a derrière. Donc ce sont les artistes qui sortent, qui vont dans la nature, qui veulent approcher au plus près l'impression de la nature, les impressionnistes. Un artiste très, très important dans cette recherche, c'est peut-être Rodin, qui va rechercher au plus près du mouvement, de la casser là encore les codes pour aller chercher le mouvement et faire des sculptures toujours en mouvement. Et puis on tend vers l'abstraction et vers le concept. Donc on sort de plus en plus de la représentation pour aller chercher quelque chose d'autre derrière. Donc ça, c'est un petit peu la manière dont je voulais rebondir sur ce point-là. Et puis, je laisse la parole à...
Merci. À Francisco, je pense, d'abord.
Hein? Non, d'abord.
Ah oui, d'abord
sur,
à Valéria.
Sur l'infini.
Oui, parfait. Merci beaucoup.
Merci. Merci. Je vais donc inscrire mon intervention dans le socle d'une des dernières réflexions faites par Carlo aujourd'hui. L'achèvement et mimétisme, donc dans l'ordre de la représentation et non de l'authentique. Et je vous proposerai de travailler ensemble sur le champ sémantique du mot inachèvement chez Giacomo Leopardi, qui est un des plus grands poètes de l'Europe néo-latine, et plus particulièrement, donc, d'un côté, l'inachèvement en tant qu'imperfection, donc de imperfectum, ce qui nous amènera à faire référence aux théories de la perfectibilité et à illustrer la position tout à fait originale de Leopardi à ce sujet, et de l'autre côté, l'inachèvement en tant que non fini, ce qui nous amènera aussi donc à la notion de l'indéfini chez Leopardi, donc comme concept poétique et épistémologique en même temps.
D'accord. Merci beaucoup, Francisco.
Et bonjour. Seulement quelque chose de complémentaire sur les interventions des collègues et la conférence de Carlo. Je reste sur les arguments que vous avez proposés. C'est juste Rilke au centre. Il passe 3 années comme secrétaire de Rodin et il écrit ses lettres sur ses âmes, pas comme un écrit autonome, mais à l'intérieur d'une correspondance avec sa femme. Et Rodin, comme argument, se sent comme laboratoire de ce que Carlo est présenté comme ses besoins de fuir de la représentation. Cette fuite de la représentation a été présentée comme une expérience absolument tragique. On oublie le monde et on construit contre le monde cette forme d'écriture qui sera toujours au-delà de ce que toujours la mimesis et la représentation a imposé comme forme d'art. Ce qui se transforme, c'est justement le concept d'art. Et entre ces dernières impressionnistes, Cézanne appartient à cette tradition, et le final, la dernière Sainte Victoire, développée par Cézanne en 1910, se produit justement une transformation qui traverse pas seulement la peinture, pas seulement la sculpture, mais traverse toutes les arts. C'est la Verklärten Art de Schoenberg qui donnera cette émancipation des tones que le temps laissera hors de la composition l'architecture tonale et donnera aux matériaux de la musique les droits. C'est Kafka qui donnait les droits qui donne les droits de cette émancipation. Et à partir de là, les concepts de représentation viennent substituer par les concepts de construction. Et la construction, ça devient déjà l'initium crucis de ce premier grand expériment que le premier cubisme entre juin 1906 et juillet 1907, Picasso travaille seulement sur un tableau qui s'appelle Les Demoiselles d'Avignon. C'est le tableau fondateur de toute une époque et en plus de l'art. C'est l'inachevé qui vraiment s'y transforme dans la disponibilité que Carlo remarqué à la fin de ton intervention comme des matériaux, des morceaux vivants. C'est le morceau vivant de Char qui, dans ce cosmos de la représentation, qui exploite, se perd pour se redonner, se retrouver dans le contexte, justement, d'une construction intellectuelle.
Oui, merci Francisco. Je voudrais reprendre pour commencer notre approfondissement ce passage que tu as fait, que vous avez fait en réalité les deux, de la représentation à la construction. C'est même le titre d'un mouvement allemand du XXe siècle. Il y a en effet dans cette tradition toute une recherche qui se fait aussi bien au point de vue des arts et de l'architecture que du point de vue de la poésie. Et je voudrais vous proposer déjà un texte de Francis Ponge qui est tiré de Pratique d'écriture ou l'inachèvement perpétuel. Eh bien, il essaye d'expliquer pourquoi il a désormais choisi le parti pris des choses, qui sera aussi le titre même de l'un de ces volumes, de ce recueil. Et il dit « La différence qui m'est apparue entre les récents textes catalogués comme poétiques, les arts, volets, araignées, cheminées d'usine et le parti pris des choses vient de ce que j'y tente une élaboration des ressources dont j'ai découvert le principe avec le parti pris des choses. Et donc, il faut avorter les valeurs dès qu'elles sont formulées catégoriquement, mais la première chose à faire est pourtant de les dégager. Alors, nous avons ici, d'une manière condensée, tout un chemin des poétiques du monde contemporain. D'abord, faire éclater ou avorter les valeurs dès qu'elles sont formulées catégoriquement, c'est-à-dire quand elles peuvent être reconnues indépendamment de la expression singulière, mais qui se réfère donc à une formulation, pour ainsi dire, universelle et définitive. Et en tout cas, la première chose est dégager, constamment dégager, qu'il s'agisse éventuellement d'un éclat en morceaux, ou qu'il s'agisse d'isoler, comme Ponge le fera dans son parti pris des choses, telle ou telle forme singulière qui reste évidemment, puisqu'elle n'est plus catégorique, indéfinissable et donc inachevée. Je vous fais un exemple concret en partant de ces formes, le caillou, la figue, le pain, etc. Eh bien, dès que vous isolez cet élément, c'est-à-dire quand un élément renonce à sa fonction catégorielle, vous n'avez plus la possibilité de le définir comme tel. On ne peut plus dire un caillou. Ce serait tel caillou retrouvé dans la telle plage ou au bord de telle rivière, à tel moment, avec tel soleil, etc., etc., comme Italo Calvino le dit à propos de lecture d'une onde. Dès que vous renoncez à la catégorie onde et que vous essayez, comme M. Palomar le fait, de faire la lecture de telle onde qui est en train de passer, eh bien, cela devient impossible au point de vue catégoriel et inachevé, inachevable au point de vue factuel, parce que cette onde est supprimée par l'autre qui vient, elle est effacée par l'autre qui se superpose, etc. Donc, de ma part, je retiens de votre conversation ce problème ultérieur, c'est-à-dire que l'inachèvement devient plus important au moment où la pensée créatrice renonce au XXe siècle à une définition catégorielle. Je ne suis pas en train de parler du caillou. Parce que si je renonce à la catégorie, eh bien, il n'y aura plus qu'un immense éventail ponctuel, impossible à saisir ou définir, même avec tout le travail de précision que Ponge fera autour des différentes choses qu'il prend en examen, qu'il veut recréer par des termes les plus précis possibles du reste. Donc je crois que là, c'est aussi quelque chose d'important qui s'est produit au XXe siècle, c'est-à-dire le renoncement à l'aspect catégoriel non seulement des mots, mais aussi des représentations, et que donc ce qu'on va faire, c'est fait pour la première fois ici, seulement ici, Est-ce que cela aura du sens? Pendant combien de temps? Pour combien de personnes? Etc. Donc, on est dans une espèce de précarité de signification qui a été du reste prise en charge dans le cours qu'il a donné au Collège de France par Anselme Kiefer dans son L'art survivra à ses ruines. Mais c'est vrai qu'à partir de quelques siècles, nous aurons une communication, un séminaire sur les dessins de Piranèse. C'est vrai qu'à partir au moins du 18e avec Piranèse, l'art ne peut pas ne pas prendre en charge ses ruines. D'où, en effet, cet effet constant d'inachèvement, d'impossibilité à achever. On le voit tout de suite chez Piranèse. Il y a des arcades qui terminent nulle part, il y a des murs qui sont fissurés partout, des escaliers qui ne terminent jamais, qui ne portent nulle part, on ne sait pas d'où on entre, où on sort, etc. Et à mon sens, ce type de conscience éclate encore plus au XXe siècle avec une déclaration formelle, anticatégorielle, qui met l'œuvre d'art dans sa nudité face à un destin qui ne peut pas être défini a priori. Voilà. Est-ce qu'il y a des réactions là-dessus ou...
Votre référence à Piranesi reste très relevante dans la discussion sur l'inachevé. Et je crois que le professeur Franck, justement, centrera cette problématique. L'importance des planches de Piranesi, c'est que pour la première fois, le regard sur l'antique devient plus proche de la vérité que de l'interprétation. Il ne faut pas reconstruire, comme fera tout de suite l'esprit néoclassique, une imitation. Mais il faudra faire tomber, laisser l'antique dans sa identité comme ruine. Il ne faut pas sauver la ruine. Ça, c'est le tragique de Piranesi. Parce que tout de suite, en 1754, après les fouilles de Herculano et quelques années plus tard, ça deviendra ce culte de l'antique. Et on peut voir comme les Anglais construisent ces maisons avec le style palladien, comment s'ouvre à London le premier antiquariat. Et alors, on retrouve comme une nouvelle stratégie de modernité cette imitation de l'antique. Non, Piranesi fait cette coupure. Et la vérité de la ruine, c'est d'être ruine. Et sa vérité, c'est Rilke même qui disait, c'est pas la ruine qui passe le temps à l'impronta, à la spur, à la, on peut dire, du temps. Et il faut respecter cette présence. Et vraiment, dans une perspective d'histoire des idées, la centralité de Piranesi, justement, nous produit une résistance à la mesure de la reproduction mimétique et enfin, donner la vérité, ça veut dire l'essence, à ce petit morceau qui encore, et c'est le témoignage d'une époque, d'une histoire, d'un temps. Et vraiment que le contexte romain, ça nous précipite sur la interprétation contre surtout les grands théoriques de l'antique allocation, que c'était Winckelmann. Il faut lire Piranesi versus Winckelmann. Dans les Gedanken, le texte fondamental de Winckelmann, on construit pour la première fois la théorie du canon antique. Et Piranesi serait contrepoint de cette lecture. Non, c'est pas ça. Il faut laisser, on pas le reconstruira. Et même dans cette tradition, il faudra arriver à 18e, 19e, dans la grande tradition française, quand Viollet-le-Duc à Carcassonne, ou Viollet-le-Duc à Toulouse, ou à Notre-Dame, fera de sa compte pour dire on reconstruira parce que nous restons mélancoliques de cette histoire-là. Et on fera de sa part un peu prodomo sua. Il préférera la rhétorique dictée par la mélancolie que la vérité même du monument. Ça, c'est son limite. Et que pour la tradition de la restauration, il a des efforts formidables.
Bien, nous avons là déjà, pour nous préparer au séminaire qui va venir, cette belle opposition Piranesi-Winckelmann, la construction de l'inachèvement et de tous les potentiels de l'inachèvement versus la forme parfaite. Mais il y a aussi une dernière question qu'en profitant de la présence de Valeria Giannetti, je voudrais proposer et que j'avais réservée, et je le fais maintenant, pour la fin de ce séminaire. Est-ce que, à son tour, l'inachèvement est un genre? C'est-à-dire, est-ce que c'est une condition simplement qu'on peut définir et contrariant en pensant à ce qui est achevé, ou bien est-ce que l'inachèvement a à son tour les caractères d'un genre littéraire ou artistique, etc. Je ne vais pas anticiper sur la conférence de mon collègue Christophe Franck, mais les 150 dessins nouveaux trouvés de Piranesi montreraient plutôt qu'il s'agit, en tout cas chez Piranesi, d'un vrai genre. Mais il y a aussi le côté littéraire. Et je voudrais, sans avancer les arguments de ton exposé, mais au moins rappeler que dans l'une des lettres de la fin de sa vie, Giacomo Leopardi écrit à Charles Breton, qui voulait traduire ses poèmes en français. Leopardi dit « Non, ça ne vaut pas la peine. En tout cas, dans ma vie, je n'ai fait que préluder. » D'où le fait qu'en réalité, on pourrait penser à l'inachèvement aussi comme une forme, et spécialement au XIXe siècle, de prélude. Prélude qui a une forme autonome qui fait référence à quelque chose qui devrait venir, hein, comme prélude A, mais qui a en réalité une parfaite autonomie, d'abord musicale, mais aussi tout à fait littéraire. On peut très bien voir dans le Zibaldone de Leopardi le passage entre la préparation d'un texte ou la réflexion a posteriori que Leopardi fait sur les textes qu'il a écrits, et avec cette respiration continue de la préparation au texte et à la réflexion sur le texte qui est achevé. Est-il achevé? On ne sait pas vraiment. Hein. En tout cas, le traité des passions, le traité des mœurs, tout ce qu'il voulait faire avec ses notes n'a jamais eu lieu. Donc on est dans un état d'inachèvement. Mais disons que l'inachèvement, à un moment donné, a eu le désir de devenir une espèce de genre littéraire. Et cela se lie surtout, au point de vue de la musique, à un autre chemin que nous côtoyons, c'est-à-dire à l'improvviso, aux impromptus. parce que il y avait la tradition qui a duré au XXe siècle également, de chanter ou de composer à l'improviso, en prenant comme sujet la conversation qui avait eu lieu cet après-midi-là dans ce salon-là, ou bien un sujet qui était donné par le maître de la journée, ou bien par un thème qui était fourni par les circonstances de l'après-midi passé en commun. Donc il y a aussi ce type de formulation qui demande de prendre en charge l'inscription du temps dans la forme. Tout ce que nous sommes en train de voir ensemble, l'improviso, le fragment, le dessin, l'inachèvement, etc., comporte en principe l'inscription du temps dans la forme même, alors que, d'une manière classique, la forme était là pour toujours, elle avait enfin expulsé le travail du temps. Exegi monumentum ere perennius, nous dit Horace. J'ai dressé un monument plus éternel que le bronze. Alors, évidemment, ce dont nous parlons n'est pas dans ce contexte, mais il faut le rappeler aussi de temps en temps. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, Valérie.
Sur le thème de la ruine, donc le thème de la ruine est associé aussi au thème de l'absence, qui est conçu comme la seule forme de présence authentique pour les modernes. Et donc, on pourrait, je vais essayer de le faire à un moment, en fait, poursuivre aussi cette thème de l'absence liée à l'inachèvement et penser qu'il y a une partie de la culture du XXe siècle qui est parcourue en fait par les préfixes négatifs. Effectivement, quand tu dis que l'inachèvement peut être pensé aussi comme une catégorie et non seulement comme la négation de ce qui est achevé, effectivement, ça le devient dans la littérature du XXe siècle. Ça serait intéressant enfin, de pouvoir penser aussi à quels sont ces mots qui dessinent le XXe siècle et qui partent de préfixes négatifs, juste comme l'inachèvement, l'indéfini, l'inaccompli. Ça serait un parcours possible.
Merci.
Moi, je voulais juste ajouter par rapport à Piranèse et à cette découverte de la ruine comme un genre, comme une nécessité, comme une trace de la vérité. Si on compare cette volonté de garder quelque chose de réel, quelque chose d'authentique, par une ruine, on peut comparer ça à ce que font les Japonais. Les Japonais, eux, reconstruisent perpétuellement. Et pour eux, ce qui est important, c'est de garder le savoir-faire. Donc, ce ne sont plus des objets ou des monuments qui sont des trésors nationaux, ce sont des hommes, des personnes, qui sont capables de maintenir exactement dans le même état, avec les mêmes matériaux, ce qui a été construit par leurs ancêtres. Donc, le trésor national, c'est celui qui peut perpétuer cette authenticité. Et c'est là que je parlerai un peu de l'intangibilité. Est-ce que l'œuvre d'art, pour être reconnue comme une œuvre d'art, doit être reconnue dans son intangibilité?
Parfait. Et alors nous allons conclure notre matinée avec un mot qui n'a pas été prononcé, mais qui doit être prononcé pour mettre ce séminaire dans l'horizon nécessaire. Le mot, même si après il n'y a pas à l'intérieur du volume quelque chose qui traite ce mot même, est dans un livre d'Yves Bonnefoy, l'inachevable. c'est des entretiens sur la poésie. Mais il a voulu donner à ces entretiens, un peu comme Yankelevitch pour son quelque part dans l'inachevé, a voulu donner à ces entretiens le titre dit inachevable. Eh bien, inachevé, inachevable ouvre évidemment un parcours bien plus compliqué. Et on pourrait dire d'une manière vraiment basique, l'inachevé est un constat, l'inachevable est un bilan ou une espèce de conscience d'impossibilité, de perfection inatteignable. Mais en même temps, quand on passe du côté de l'inachevable, on a aussi le bonheur d'une liberté qui n'aura pas de limite. On peut toujours continuer à travailler cet ouvrage, à refaire ce geste, à recommencer par la même plume, sur la même page, etc. Et ce séminaire, je ne vous le cache pas, est aussi le préambule d'un travail que nous menons depuis quelques années, Alain Berthoz, moi-même et Brian Stock, et qui devra arriver un jour ou l'autre à proposer un colloque sur les libertés de l'improbable. Vous voyez, il y a toute une espèce de série de catégories, l'inachèvement, l'inachevable, les libertés de l'improbable. Quel est le soubassement, enfin le problème qui se cache derrière, ce n'est pas un jeu de mots. C'est le constat de plus en plus évident que le probable n'est plus un calcul de probabilité, mais simplement un appareillage de saisie. Et nous devenons réellement, comme Michel de Certeau le disait, des fleuves chiffrés de la rue. Et tôt ou tard, nous aurons chacun un petit bouton magnétique qui nous dira ce que nous devenons à chaque instant. Ne nous le dira pas, le dira la centrale des données. Hein. Et eh bien, cela pose des problèmes majeurs quant à la conscience de la liberté, à l'exercice de la liberté, au fait même d'être présent à son temps, en condition de citoyen. Et donc, ce colloque, vous voyez, va un peu dans la direction de la mise en question de tout ce qui est au-delà du probable. Et donc, l'improbable est aussi une manière de participer de l'inachevable, etc. Enfin, tout ce qui peut échapper à une pure définition numérique. Je ne sais pas, parce qu'on y travaille depuis 2 ou 3 ans, et à chaque fois, il y a des nouvelles données philosophiques qui nous obligent à remodeler notre schéma, puisqu'on le fait avec d'autres collègues du Collège de France, mais tôt ou tard, nous arriverons à vous proposer ces libertés de l'improbable. Voilà, donc, nous avons commencé par Yankelevitch, quelque part dans l'inachevé. Nous terminons par l'inachevable et peut-être même par l'improbable. Je vous remercie infiniment de votre patience et je vous rappelle que la semaine prochaine, le 11 février, Michel Jarnet de l'Université de Genève nous parlera, comme je l'ai dit, du lecteur à l'œuvre. Puis il y aura Corinne Escovitch. Nous aurons ensuite Benedetta Papas sur le plus inachevé des inachevables, c'est-à-dire les pensées de Pascal, et Christophe Franck, que nous avons déjà évoqué, Valeria Giannetti et Francisco Arauta. Canfora, Luciano Canfora va terminer nos séminaires avec le projet d'un faux à partir d'un papyrus inachevé. Donc là, c'est la volonté humaine qui, par imitation et pour d'autres raisons, travaille sur le concept même d'inachevé. Donc ce sera une imbrication ultérieure de notre sujet. Voilà, le déroulé à venir, et je remercie infiniment de votre patience et je remercie mes collègues et amis. Voilà.